Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charlie.
Alors aujourd'hui, on fait revenir l'hiberné.
Quoi?
Ah bah peut-être c'est un ours.
Oh, bon. Donc bref, je disais.
Attends, on reçoit Brigitte Bardot.
Ah. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on la voit plus.
Mais non, l'hiberné national.
Jacques Chirac, énorme, génial.
Attends, tu crois pas si bien dire. Il a incarné De Gaulle. Il a même joué avec Louis de Funès et Jacques
Brel. Ah, je sais, c'est Bernard Allan parce que hiberné, hibernatus. Ah.
Voilà.
Mais attendez, il est en forme au moins.
Mais évidemment, oui, il a même joué Kevin Spacey, John Malkovich, Stephen Fry.
Pardon?
Il faisait les voix en français. C'est un grand doubleur.
Ah bah oui, il était aussi dans Aladdin. Dans Bambi, dans Pocahontas.
Dans Pocahontas.
Non mais sans compter sa carrière au théâtre, dont une partie à la Comédie Française.
Comédie Française.
Ah, dis donc, pour un hiberné, il dort pas souvent quand
même. Non mais bon, mais quelqu'un lui a dit qu'on était bien en 2018, parce que bon, hibernatus c'était 69.
Il va falloir y aller doucement.
Voilà. Faudrait pas qu'il soit traumatisé.
Moi j'ai une idée, on devrait peut-être faire comme si on était dans les années 70 pour pas le brusquer. Ouais.
D'accord, on essaye. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque à 17h?
Bah radioscopie.
Ah ouais.
Radioscopie, Bernard Allan, Charline Vanhoenacker.
Bah, et nous,
on est là aussi.
Pas de bande, Jacques Chancel.
Non. Le mieux, Charline, j'avance que c'est que tu l'attaques comme de Funès, en finesse, mais avec un peu de poigne.
Mm-hmm. Comment vous sentez-vous? Bien, t'attaques. Allez, on y va. Allez, hop. Et maintenant, je vous dis tout.
Non.
La ferme.
Voilà.
Vous croyez?
Ah bah oui, il aime bien être brusque.
Il adore ça.
Comment vous sentez-vous?
Ça va, j'ai été assez ferme.
Un peu trop.
Oui.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission où la rigolade pratique le benchmarking de l'actualité. Depuis ce matin, on est tous bien flippés par le rapport du GIEC, parce qu'il nous reste 12 ans pour sauver la planète, mais pas de catastrophisme, oh demain on aura déjà tout oublié.
Depuis que Nicolas Hulot est président, c'est l'enfer les poubelles.
Tu te souviens quand on mettait tout en vrac dans une seule grosse poubelle?
Nostalgie.
En autodétruisant son tableau qui venait d'être adjugé 1 million d'euros, Banksy a doublé sa valeur, il a trollé le marché de l'art et il a donné des idées à d'autres artistes.
Une grosse quantité d'explosifs se trouve dans la poubelle sur laquelle est assis le Samaritain. Si vous tentez de fuir, elle explosera immédiatement.
La fiction française trouve son salut en région. Les héros sont associés à un territoire, ils jouent la proximité, loin de Paris. La télé a compris qu'elle gagnait à être du côté des Girondins plutôt que des Jacobins.
Ça est charmant et provincial à souhait.
Lui, il vient du 22e arrondissement de Paris. C'est Bruxelles, le 21e arrondissement de Paris est en Londres, bien sûr. Bonjour Alex Vizorek.
Vous êtes d'une précision, ça rassure l'autre.
Elle est journaliste à la base, il faut le rappeler.
Eh bien, je vais vous offrir une belle équipe. Rien que pour ça, à 17h20, celle qui ne porte pas si bien que cela son prénom, il aurait été plus honnête de l'appeler Inconstance. Bonjour Constance.
Bonjour à tous.
De quoi on va parler?
Je vais vous proposer de me pénétrer.
Très bien.
Oh là, non.
Toujours un peu d'angoisse.
Non, je trouve ça une bonne
chose. On espère que, comme Banksy, ses œuvres vont s'autodétruire un jour. C'est Guillaume Meurice.
Ouais, bah, je vais vous parler trottinette aujourd'hui, puisque le sujet est clivant et la France est divisée.
La trottinette, c'est très bien, mais c'est très bien sur des trottoirs.
Et voilà, assassin.
J'en ai fait ce week-end, je vais pouvoir témoigner. Et enfin, à 17h40, celle dont le patronyme se compose de deux prénoms, comme Jacques Daniel et Rémi Martin, c'est Juliette Arnaud. Bonjour.
Bonjour, Alex. De quoi on parle? Vous savez, vous connaissez le concept de l'ami imaginaire?
Oui.
Eh ben moi, j'ai un amoureux imaginaire.
Mais non.
Et il sort un livre.
Très bien.
Et voici celui qui va dégivrer l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Bernard Allan.
Oui.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Bernard Allan.
Bonjour.
Bonjour. Bon, on vous connaît tous bien sûr donc comme l'hiberné dans Hibernatus.
Vous connaissez mon petit-fils.
Ah, voilà, c'est ça.
C'est mon petit-fils maintenant, vous voyez.
C'est vrai. Et je dirais...
Deux générations.
Vous êtes rudement bien conservé.
Oh bah, je suis au frais depuis longtemps.
Bernard Allan, on peut vous voir au théâtre en ce moment à Paris pour l'instant. Espérons que vous puissiez avec cette pièce.
Prévue après.
Ah très bien. Alors donc dans toute la France, sachez que vous pourrez aller voir bientôt La Légende d'une vie de Stefan Zweig, adapté par Michael Stamp, mis en scène par Christophe Lidon.
Avec peut-être même Michael Stamp.
C'est Michael Stamp.
Bah, ouais, comme c'est non, allemand.
C'est ah c'est vrai, pardon. D'accord.
Mimi, on va l'appeler Mimi.
Mimi.
Bon. Bernard Allan, vous jouez avec Nathalie Dessay, Macha Merrill, Gaëlle Giraudeau, Valentine Gallet.
Galet, on peut dire.
On peut dire Galet.
Oui, Galet, on peut dire.
C'est au théâtre du Montparnasse et Alex Vizorek est allé voir cette fameuse adaptation de Michael Stamp.
Michel. Oui, mais moi j'adore quand on m'envoie voir des grands textes. Je l'avais dit à Christiane Reali quand vous m'aviez envoyé voir Tennessee Williams. Je vous le répète, Bernard.
Vous l'aviez pas dit à Las Palès.
C'était fric frac. On est moins dans le grand texte.
Pas mal déjà.
Oui, on est dans du Michel Faux. Ici, vraiment, c'est un grand texte. Moi, je le connaissais pas du tout. Cette pièce de Zweig, je ne savais même pas ce que Zweig est un auteur de théâtre. Je le connaissais.
Il a écrit plusieurs pièces, mais celle-là, oui, c'est la plus importante. Et elle n'a jamais été jouée.
Elle n'a jamais été jouée en France,
c'est
je crois.
C'est la première fois.
Et alors,
pas une adaptation de livre, on est d'accord. C'est vraiment une pièce.
Exactement, ça a été
tout
un film allemand.
Tout le monde pense qu'il y a beaucoup de choses. En fait, toutes les pièces qu'on a vues sont des adaptations de livres. Et là, celle-là, non.
Lui dit qu'il s'est inspiré en partie de la vie de Wagner et de la vie de Dostoïevski pour créer cette famille où le fils a envie de devenir poète comme son père décédé, qu'on ne voit jamais, qui est là quand même comme figure tutélaire de la pièce.
Il est très là, oui.
Tout tourne autour de lui et il va présenter ses poèmes dans cette maison qui a été l'antre du père, où il y a sa mère, Nathalie Dessay, le biographe officiel, vous. Et puis débarquera Macha Merrill plus tard.
Personnage mystérieux.
Voilà, dont on ne
va
pas dire.
Qui va mettre le désordre là-dedans et qui va en fait faire révéler les vérités.
Exactement, parce qu'il y en a beaucoup derrière cet homme qu'on pense irréprochable. Et il y a surtout, au départ, le premier acte commence là-dessus, il veut devenir poète. Et en même temps, ça l'ennuie d'avoir ce nom-là, ce nom de ce grand poète qui était son père. Vous qui êtes fils d'actrice, ça a dû vous parler quand même.
Il faut imaginer, par exemple, à l'époque, Victor Hugo en 1920 qui meurt, et tout d'un coup, le fils qui veut écrire trois petits poèmes, je pense qu'il aurait eu des soucis quand même. Donc là, et je pense que le personnage qui est joué par Gaël Giraudot, il a aussi dans la vie, il est quand même le fils de Bernard Giraudot et de Dany Dupéret. Je pense qu'il a dû aller chercher un petit peu, je ne vais pas parler pour lui, mais il a dû aller chercher dans ses propres sentiments de quoi alimenter le rôle.
Je parlais pour vous. Vous avez décidé de faire le même métier que maman.
Bah déjà moi, maman est une femme, c'est le même. Voilà. Et puis c'est
important d'être précis. Non,
il faut préciser les choses. Faut qu'on soit clair.
Oui, sur les Français.
Et donc voilà, c'était différent. Et puis à l'époque, ma pauvre maman, elle a eu deux ans. Quand moi j'ai démarré les fameux films là dont vous avez parlé tout à l'heure, elle était un petit peu dans le creux de la vague. Elle avait bien marché avant dans la compagnie Fabry. Elle a repris vraiment sa carrière après. Donc j'étais pas écrasé par une grosse vedette devant. Être le fils d'Annie Callan, c'était quand même plus confortable que d'être le fils de Bernard Giraudot et d'Annie Dupéret.
Mais quand on annonce à ses parents qu'on veut faire le même métier qu'eux, est-ce qu'il y a une satisfaction ou est-ce qu'il y a une angoisse?
Là, je pense que mon père, qui faisait pas du tout ce métier, adorait ce milieu. Il était finalement très content. Puis comme c'est la seule chose où j'arrivais à peu près à faire quelque chose, parce qu'à l'école, j'étais totalement nul. Et maman était assez contente, ouais.
J'ai lu dans une critique de la pièce qui dit que c'est entre le vaudeville et la pièce métaphysique. Et j'ai assez aimé cette analyse. Est-ce que
vaudeville métaphysique, vous
voulez
dire?
Le vaudeville dans la légende du vivre.
C'est-à-dire qu'on suit le truc, c'est-à-dire que ça rentre sa sort.
C'est une sorte de thriller.
Voilà,
je suis d'accord. Il y a une vraie histoire qui pourrait être une histoire policière. Et c'est drôle, on se rend compte sur des, par exemple en matinée, quand les gens sont un tout petit peu plus âgés, gens de ma génération par exemple, ils sont plus proches de suivre le thriller que le côté littéraire et... mais il y a une vraie histoire policière, oui, c'est presque une histoire policière, une histoire de lettres.
Oui, parce qu'on ne sait pas qui est cette personne jouée par Macha Merrill et on le découvre au fur et à mesure, mais cela implique à chaque fois des vraies réflexions métaphysiques. Moi, je trouve notamment la question du est-ce que un grand artiste doit être un grand homme? Elle se pose.
C'est tout le problème. C'est ce qu'essaie de faire le personnage de Nathalie Dessay. Elle essaie d'idéaliser complètement en imposant avec moi une sorte de complicité, puisque moi je suis à la fois biographe, mais je suis dans la maison depuis 20 ans, j'ai un peu élevé le petit, la fille aussi qui est jouée par Valentine Gallet. Bon. Et donc, en fait, c'est un peu la notion de qu'est-ce qu'on fait quand on est un ayant droit? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire?
Bien sûr.
Voilà, quand on vous donne ce cadeau empoisonné, qui est une orbe colossale, comment gère-t-on la chose?
Est-ce que Laetitia Hallyday va venir voir cette pièce?
Elle est prévue la semaine prochaine. voilà,
non mais ça pose vraiment toutes ces questions-là.
C'est un vrai problème.
Et puis c'est une très très belle langue et qui vaut la peine d'être écoutée.
Et puis c'est un texte dans un théâtre à Paris et qui est comme c'est rare maintenant d'avoir des grands textes comme ça. Puis alors chez Myriam de Colombie là au Montparnasse, on peut pas être mieux. C'est exactement le théâtre dans lequel il fallait qu'on joue.
Tout à fait.
Et j'ai pourtant théâtre privé. C'est ça,
Théâtre privé, oui ça. On l'a créé dans un théâtre public puisque Christophe Lidon a le cadeau d'Orléans. Mais enfin là, on est dans un théâtre privé. On est très très fiers d'apporter ce texte-là.
Et puis vous irez le porter partout en France.
Il y aura une tournée prévue en 2019, oui.
Pour la légende d'une vie. vie de Stefan Zweig avec Nathalie Dessay.
Qui est une excellente actrice, j'ai découvert.
Oh là là, oui, je l'avais jamais vue.
Elle dépote, hein.
Ouais, ouais, ouais.
Elle a une intensité incroyable.
Bernard Allan avec nous, ça dépote ici aussi. In Love, Gossip sur France Inter par Jupiter, il est 17h20. Nous sommes en compagnie de Bernard Allan, le comédien qui joue dans La Légende d'une vie de Stefan Zweig au Théâtre du Montparnasse, que vous connaissez tous bien sûr, car c'est Hibernatus. Et là j'ai vu défiler des gens en régie, genre quoi
il comment il est maintenant,
ah, il est toujours bien.
Oh là là, il a l'air de son grand-père, quelle horreur.
Eh ben, on vous reconnaît bien, vous avez une gueule d'acteur, c'est fou. Non, mais c'est une belle gueule d'acteur.
Pas que, parce que Aldric sur hashtag par Jupiter nous demande si on peut demander à notre invité s'il lui reste un combiné narguilé et cafetière qui fait aussi des pommes de terre frites.
Ah ça je sais ce que c'est l'ennemi d'Arabie, c'est le générique du Disney.
Voilà, exactement.
C'est pas capable de vous chanter aujourd'hui. j'ai des gens de, je sais pas, 35 ans qui viennent me voir en disant, vous avez bercé mon enfance avec ça.
Eh bien voilà.
Et ben voilà.
Nos jeunes auditeurs de France Inter, il y en a 3 exactement.
Très bien.
Bernard Allan avec nous et autour de la table, Alex.
Et bien entendu, le rire de Juliette Arnaud qui parlera littérature. Constance qui nous a promis des choses et la dernière fois elle nous avait pas arnaqué. Et Guillaume Meurice qui est allé à la rencontre des trottinettes.
Et les actualités radiophoniques.
Bien entendu.
Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
Le journal de presque 17h17.
Je ne sais pas nager, je veux te voir.
Et on commence par les titres.
Une œuvre de Banksy s'est autodétruite lors d'une vente aux enchères.
Eh oui, un truc qui s'autodétruit lors d'un moment crucial. Si ça tombe, le gouvernement Macron, depuis le début, c'est un happening de Banksy.
Au sujet du prochain remaniement, Benjamin Griveaux a déclaré « Depuis le premier jour, on prend les gens les plus compétents ».
Ah, du coup, Christophe Castaner n'a aucune chance d'en faire partie.
Il y aura des brèves ?
Pas de remaniement pour les brèves, désolé.
Et on commence par cette idée.
Oui. Une députée La République En Marche propose un crédit d'impôt pour les Français qui hébergent des réfugiés.
Et si ça passe, Cédric Herrou sera considéré comme un spécialiste de l'optimisation fiscale en France. Et ça, c'est fort.
Majorité encore, le gouvernement réfléchit à la mise en place d'un contrôle d'identité pour accéder aux sites pornographiques.
Ouais, ça va me faire un changement radical parce que, bon, d'habitude, quand on va sur un site porno, les seuls papiers qu'on a avec nous, c'est Kleenex et Sopalin. Ouais. Donc, ça est spécial.
Fraîcheur toujours oui. avec l'extrême droite. Marine Le Pen est actuellement à Rome avec Matteo Salvini.
Oui, alors Salvini, on sait qu'il expulse tous les migrants possibles, mais je pense que ce coup-ci, bah, il va nous la rendre aussi. Hein. Ça, c'est une tristesse.
Justement, quelques députés, oui. dont Marine Le Pen, veulent que les détenus paient leur incarcération.
Et ça, c'est bien. Comme ça, avec tout ce qu'elle a piqué au Parlement, si elle va en prison pour détournement, elle aura de quoi payer sa peine, même si elle prend perpète.
Écologie. Les experts du GIEC oui. lancent une nouvelle alerte pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°.
Oui, mais de toute façon, les Français vont s'intéresser un peu à la planète quand ils vont se rendre compte que les prochains migrants, ce seront les ours polaires. À ce moment-là, il y aura une angoisse.
Selon les conclusions d'un laboratoire oui. mandaté par le site de France Info, on retrouverait jusqu'à 15 résidus de pesticides différents dans la plupart des bouteilles de Bordeaux.
Mais oui, pour vous donner une idée, si Juliette Arnault décide de faire pipi dans la nature, l'herbe n'y repousse pas pendant 15 ans.
Effectivement. International, à présent aux États-Unis, la chanteuse Taylor Swift apporte pour la première fois son soutien aux démocrates.
Et oui, Donald Trump avait lui aussi reçu un soutien, celui de Stormy Daniels, et c'était du 85D.
Économie, le procès de la banque suisse UBS s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Un procès pour une gigantesque fraude fiscale de 10 milliards d'euros. UBS ayant courtisé de nombreux clients français fortunés.
Quelque chose me dit que Charles Aznavour a bien fait de choisir son moment.
Sport.
Oui, après son quadruplé lors du match PSG-OL réalisé en 13 minutes, Kylian Mbappé a déclaré
« Je peux faire mieux ».
Qu'est-ce qu'il veut faire de mieux, le con hein? Marquer plus que 4 buts en 13 minutes, trouver le vaccin contre le sida à la mi-temps et résoudre le conflit israélo-palestinien dans les arrêts de jeu.
Pourquoi
il m'énerve,
Pourquoi pas bref.
Oui.
La Coupe du Monde, ça passe
pas. Alors, c'est le seul. C'est le seul. On est belge, Bernard. Désolé. Oui.
Allez, consolez-vous avec des brèves.
Puis de Dôme, un cerf qui avait trouvé refuge dans le jardin d'un particulier a dû être abattu.
Oh, bah zut.
Dans une maison, un grand cerf. Voilà.
Très bien. La dernière peut-être. Pas si vous la méritez, mais bon.
Non, elle était rigolote. Laurent Delahousse.
Oh, j'adore.
Ah,
j'adore.
Voilà, j'adore. Et c'est vrai que parfois, voilà, la mèche évidemment. Ouais. Hein, on sait de quoi on parle. Parfois, on lui reproche de tout ramener à lui. Alors, c'est pas le genre du bonhomme. Alors, pendant l'hommage à Charles Aznavour sur France 2, il a fait bien attention. Il s'est appliqué et pendant qu'on voyait les images du cercueil aller vers les Invalides.
Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
À voir si la misère est moins pénible au soleil. Vaste débat.
J'ai toujours la chance d'avoir votre numéro de portable, ce qui est mon cas, Laurent. Sauf que c'est la musique qui nous accueille sur votre répondeur.
Interprétée par ma fille Liv, et elle est dessus. C'est donc effectivement une chanson qui me tient particulièrement à cœur.
Eh merde, c'est revenu au lit. Il était pour rien. C'est quelqu'un d'autre qui lui a savonné la planche.
Vous écoutez France Inter par Jupiter. Bernard Allan, le comédien, est avec nous jusqu'à 18h. On va profiter de votre présence pour changer le monde. Alors.
Oui, ça met un peu la pression, mais ça va bien se passer.
Là, il y a un gros dossier sur la table. C'est le rapport du GIEC qui vient de nous rappeler qu'on va tous crever. Crevé de chaud en plus, de déshydratation, de pollution. Alors bien sûr, on le sait depuis longtemps, on connaît déjà la fin, mais on y va quand même tous en cœur, en route vers l'apocalypse. Et même quand on sera tous cuits comme une chipolata, on chantera encore ceci.
Le tri sélectif, ça ne se fait pas au pif. Il faut respecter les couleurs pour un monde meilleur. Le tri sélectif, ça ne se fait pas au pif. Il faut respecter les couleurs pour un monde meilleur.
Et c'est avec des petites actions comme ça, toutes simples.
Mais oui, c'est ça.
On peut réduire
des
le changement.
Des chansons toniques comme ça.
C'est le chanteur Gigi, dont l'œuvre n'est pas restée dans les annales. Mais,
il dormait
mais,
un peu.
Mais, ouais. Voilà. Mais bon, il y a une volonté déjà oui, là. C'est un début. Alors, la pression destructrice des activités humaines sur l'environnement, elle a connu une grande accélération à partir des années 50. Bernard Allan, c'est votre génération qui a tout foutu.
Exactement. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que notre génération, après-guerre, les parents, ils avaient qu'une envie, c'est de tout bouffer parce qu'ils avaient été frustrés. Et nous, les 30 Glorieuses, on a tout bouffé. On faisait attention à rien. L'essence coûtait rien. Vous mettiez votre clé dans une voiture américaine, hop, 10 litres au démarrage, tout le monde s'en foutait. Ouais. Parce qu'il n'y avait aucune.
Il y avait de temps en temps quand même un pote parmi vous qui vous disait quand même c'est pas bien pour l'environnement ou.
Non, personne parlait de ça. Personne ouais. parlait. Les rivières étaient polluées par les industries, tout le monde s'en foutait. Oh, bon, on se baigne plus dedans, on s'en fout, à la piscine. Non, c'était l'inconscience totale. Ouais.
C'est-à-dire que personne n'avait éclairé, n'avait allumé la petite lampe et donc le déclic s'est pas fait, quoi.
Les gens, c'était comme si c'était les énergies fossiles étaient absolument, ça devait durer 10 000 ans. Et... Maintenant, le problème qu'on va avoir, ça va être l'eau. Parce que non seulement les gens qui se noient, là, les pauvres, venir, mais c'est pas, ils vont avoir des problèmes de flotte en plus. Personne va boire maintenant, donc... Ouais.
À quel moment vous avez eu votre prise de conscience? Est-ce que c'est aussi peut-être par je sais pas par l'autre la génération suivante? Parce que nous notre génération, on en est presque à devoir éduquer non seulement nos enfants mais nos parents.
Oui, c'est ça.
Qui n'ont pas le déclic.
Je pense qu'il y a, moi, il y a presque 30 ans quand ça a commencé à bouger, non?
Vous avez été sensibilisé à un moment
assez
et vous
tôt,
avez...
assez tôt, mais le tri c'est
par cette chanson, c'est ça.
Je me chantais ça toute la soirée, mais oui, c'est ça. Et, effectivement, le tri sélectif, c'est quand même la base. Quand vous voyez que Starbucks, par exemple, j'ai vu une émission, ils sont même pas foutus de se recycler leurs gobelets. Et quand on voit, c'est un continent si vous l'achetez tout.
Vous avez fini par développer des réflexes, vous. J'imagine que vous êtes très inquiet à chaque fois qu'il y a le rapport du GIEC, ça nous remet l'alarme, bien sûr. Mais
ce qui me paraît fou, c'est que tous les décideurs qui ne s'occupent actuellement que du profit immédiat ont des enfants et des petits-enfants. Ah. Ils s'en foutent, ils vont tous crever, ça leur est égal. Qu'est-ce qu'on fait?
Sauf Macron, justement, il n'a pas d'enfants.
Bah voilà. Non, mais lui, c'est pas le pire. Hein. Trump, c'est une catastrophe.
Ouais.
Donc, enfin, je parle pas.
Il a des petits-enfants, Emmanuel Macron.
Oui, les petits-enfants.
Vous voulez que je vous lise son tweet, parce qu'il a quand même fait quelque chose.
Ah,
bien sûr.
On l'a sauvé ou pas, du coup?
Il a dit, the scientific bring the proof. Yes. Deux points. We have everything we need to combat climate change, but everyone has to act now.
Ok.
Donc,
commencer par le. Tout le monde se bouge.
Voilà.
Est-ce qu'il a ajouté win the yes and get the no ou pas?
Et il a pas dit qu'il allait commencer dès demain, mais en tout cas, il incite les autres à le faire. Ça, c'est un peu une
spécialité. Non, mais c'est vrai que notre génération, on a tout bouffé. Faut pas.
Vous faites votre autocritique, même
oui,
si.
Oui, parce que c'était un peu de la conscience politique. C'était vraiment.
On en a un sous la main. Ça serait qu'on le laisse partir, non? Pour faire un exemple,
rappelez-le à la place des autres, je sais pas.
Après, on tape dans les retraites, il faut râler encore. Non, mais
moi je râle pas.
Petite note d'espoir, et il nous reste une marge d'une douzaine d'années pour essayer d'inverser la tendance et de viser le 1,5 degré de réchauffement et pas le 2 degrés. Donc faites comme nous déjà, amenez des gourdes.
Ah oui, c'est vrai.
À France Inter, il y a encore des bouteilles en plastique.
Alors au théâtre, ce que j'ai fait, quand on répète, ça a l'air d'une connerie, mais au théâtre, maintenant, moi j'ai une collection de mugs. Je donne à chacun son mug et je leur dis voilà, au moins pendant un mois et demi, on va pas acheter 3 gobelets plastiques par jour par personne.
Bon, bah c'est bon, vous êtes bien joué.
Ça débute.
Vous êtes pardonné. Pardonné de votre Cadillac diesel.
Voilà.
Bernard Allan, qui fait cette œuvre donc au théâtre du Montparnasse où il distribue des mugs.
Voilà, j'aime bien.
Et accessoirement, il joue la légende d'une vie de Stéphane Zweig, voilà. Quand même, évidemment. Constance! Alors, c'était prometteur votre annonce tout à l'heure, alors quid?
Je vous emmène dans ma tête.
Ah, oula.
Vous êtes déçus?
On a peur.
Parce que l'autre jour, j'ai eu une petite conversation avec moi-même et ça a donné ça. Je ne dors pas très bien la nuit. Bah oui, évidemment. Bah comment ça, évidemment? Bah t'es quand même une personne profondément. Bah oui, je suis une personne profondément, et alors? Bah tu sais bien que quand on sait, il faut faire semblant de ne pas savoir, sinon les gens savent que tu sais. Alors d'accord, mais enfin quand même, je veux dire, demain, le 9 octobre, journée mondiale du handicap, et le même jour, la journée mondiale de la poste, personne ne fait le rapprochement? Ok. Alors on continue à avancer en se disant que c'est la beauté qui sauvera le monde. Mais quand je dis « je t'aime et je voudrais te dévorer mon amour », ça sous-entend qu'après, il va falloir chier l'autre. Ça me dérange. Vraiment. Tu sais ce qui est triste? Non. C'est qu'on ait arrêté de prendre conscience que les pépins sont les bébés des pommes. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à merder. Moi, je crois plutôt que c'est quand les gens ont commencé à voir que les anciennes Miss France étaient rentrées en politique et qu'ils ont commencé à douter. Putain, t'as raison, c'est n'importe quoi. Des fois, à force d'y croire, j'y crois plus. Je suis lassée, comme une chaussure. Je me demande si les gens qui portent des chaussures à scratch et qui en ont marre ont dit qu'ils sont scratchés. Ça, je sais pas. T'as raison, faut pas laisser tomber. Tels des poissonniers altruistes, il faut qu'on donne le ton. Quitte à être les derniers indiens au milieu des cow-boys. Ouais, mais tu vois, faudrait tout changer. Déjà, le Christ, il aurait dû dire « ne leur pardonnez pas car ils savent parfaitement ce qu'ils font ». Ouais, et puis pute, il faut arrêter de croire que c'est une insulte. Elles vendent de l'amour, les dames. C'est moins grave que de fabriquer des armes, non? Et enculé, depuis quand c'est dégradant le plaisir anal? Viens, on réinvente des nouvelles insultes, genre « sale marchand de sommeil »,« vieux politicien au cul flasque », espèce de toréador, putain de curé tripoteur de gosses. Ah, c'est rigolo, attends, moi aussi je vais en inventer. « Fils de Monsanto »,« résidu de capote de chasseur à coups », chier de taré d'abandonneur de chien avant l'été, saleté d'humain. Ah, ça c'est la pire, saleté d'humain. Souvent j'ai honte d'appartenir à l'espèce humaine. J'aurais tellement aimé être un caillou. Alors oui, j'ai écrit cette chronique quand j'avais beaucoup de fièvre, mais en la relisant, je me dis que c'était finalement un peu moins débile que certaines discussions de gens qui ont 37 degrés dans le cul. Et oui, je termine ma chronique sur le mot cul. Bonne soirée.
Constance, qui est d'ailleurs tous les mardis au Théâtre des Deux Ânes. Alors, quand on disait ça avant, c'était une blague, un peu de dire ça. Et bah, plus depuis que Régis Maillot a repris la salle.
Mais oui, il rajeunit la salle.
Et donc, le mardi, c'est Constance.
Ouais, venez, hein, s'il vous plaît.
Bah, avec joie.
Mais il y a encore les chansonniers.
Je viendrai après.
Ah oui. Oui, Bernard.
Je suis occupé le mardi. Ouais,
évidemment. Ah bah ouais, ça bosse. Bernard Allan, avec nous. Allez.
Je suis devenu ce que j'ai récolté, ce qui m'est tombé dessus et ce que j'ai bien pu ramasser. Je suis devenu ce que je redoutais, mais je m'en suis aperçu qu'une fois le mal déjà fait. Ça devait bien un jour arriver. Je suis devenu ce que j'ai fabriqué, et je ne sais vraiment plus comment m'en détacher. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. J'ai dû trop souvent être seul, où je n'ai pas été assez bien. Je sais qui j'étais, je sais qui je ne suis plus, je sais ce que je faisais, je sais ce que je ne ferai plus, je sais qui j'aimais, je sais qui je ne déteste plus. Je suis devenu ce que font les années. Très bien écrit dessus, c'est même soigneusement souligné. Je suis devenu tout ce qui a pu se passer, les souvenirs perdus ou complètement déformés. Je me suis fait tout seul et je me suis raté. J'ai dû trop souvent être seul, où je n'ai pas été assez bien conseillé. Je sais qui j'étais, je sais qui je ne suis plus, je sais ce que je faisais, je sais ce que je ne ferai plus, je sais qui j'aimais, je sais qui je ne déteste plus.
Je suis devenue Miossec, la playlist France Inter, programmation musicale. Djoubaka, oui, vous êtes sur France Inter, c'est une excellente idée. Il est 17h36 d'ailleurs sur notre antenne, et il est 17h36 aussi sur RTL, et ça c'est quand même
c'est
fou.
Ouais.
Mais on est mieux sur France
Inter.
Il n'est
pas 35 et demi là-bas.
Non, je pense que nous on est en avance, on a toujours une longueur d'avance. Bernard Allan est avec nous, Bernard Allan qui joue au Théâtre du Montparnasse La Légende d'une vie de Stéphane Zweig en compagnie de Nathalie Dessay, Macha Merrill, Gaëlle Giraudot et Valentine Gallet. Et ensuite, ils partiront en tournée, vous pourrez le voir chez vous. Bernard Allan qui est, si vous nous rejoignez, Hibernatus bien sûr,
qui était.
Ça vous colle, ça
ouais,
vous colle.
Ça colle. Non, ouais, vous ça le serez colle. Toujours, vous le serez c'est toujours. Fou.
Dès que les gens nous attendent à la sortie pour faire signer les autographes, ouais. Je dis à tous les potes, allez voir, il y en a au moins qui a une jaquette d'Hibernatus plus les photos. Et je signe des photos de mon petit-fils. C'est pas
ça vous embête ou vous êtes toujours.
Non, c'est rigolo. De toute façon, moi, je suis pour rien. C'est à cause de Louis de Funès. Moi, je. Voilà, ça fait 50 ans quand même. C'est comme si on oubliait tout ce qu'on avait fait derrière, mais ils sont adorables, il n'y a pas de problème.
Guillaume Meurice est à vos côtés.
Y a des jours où il faut s'attaquer au vrai sujet de société, hein, c'est aujourd'hui. Donc on va parler trottinette qui menace nos traditions, notre art de vivre. Alors je sais que c'est un sujet clivant même au sein de l'équipe. Ah, oui. Alex est par exemple trottinophile, on
moi,
peut le dire.
Je suis pour.
Voilà, rien à voir avec votre sexualité, mais vous pratiquez la trottinette. Isabelle Sorrente a fait une chronique contre la trottinette, hein, on l'appelle depuis la Finkielkraut de la roulette. Donc moi je suis pas à l'aise au milieu de tout ça, je me sens un peu comme un enfant de divorcé. Toujours est-il, quelles sont là les trottinettes? Elles envahissent nos vies, telles des humoristes belges dans les médias français. On n'est plus chez nous, sur les trottoirs, on peut le dire, la France a peur, les trottinettes sont en train de grand remplacer le piéton. Alors les trottinettes, qui sont-elles? Quels sont leurs réseaux qui se cachent derrière ce business lucratif? Je me suis rendu au Mondial de l'Auto, qui est également celui du deux roues, ça tombe bien, et donc de la trottinette. Et j'ai fait de belles rencontres.
Je suis motarde.
Vous venez d'où?
D'Orléans.
Vous venez pas de Dijon?
Non.
Vous n'êtes pas la motarde de Dijon?
Non, ça va aller.
Ça va. C'est lundi, les gars. C'est bon, on fait ce qu'on peut. Je me chauffe, moi, je suis encore au diesel, je ne suis pas à trottinette. Contrairement donc à certains qui se déplacent dans les allées du salon en trottinette. Et c'est comment la trottinette?
Magnifique, extraordinaire. Alors là, vraiment, on gagne du temps, ça a la pêche. On est en 2 secondes 30 où on veut, c'est fabuleux.
Est-ce que c'est pas la star du salon, là, cette année, la trottinette? Je vois des stands que je voyais pas les autres années.
Bah oui, la mobilité, aujourd'hui, qui est là, elle arrive, elle est... omniprésente, et tant mieux, pourquoi pas.
La mobilité est omniprésente.
La mobilité est carrément omniprésente depuis des années au salon de l'auto.
Oui, c'est vrai que la mobilité au salon de l'auto, ça fait quelques années qu'ils sont sur le coup. Hein. D'ailleurs, ils avaient fait plusieurs éditions avec des autos pas mobiles, ça n'avait pas pris. Non, les gens n'avaient pas accroché, il y avait moins d'accidents, mais ils n'arrivaient pas à destination. Donc la mobilité est donc nouveauté, stand de trottinette un petit peu partout, avec des nouveaux modèles et des accessoires.
Ce sont des accessoires et ce sont des options. On peut changer les couleurs de garde-boue, on peut rajouter quelques petites choses en plus. Donc on change certaines choses.
On peut faire du tuning de trottinette.
On peut tout à fait faire du tuning de trottinette.
Et ben ça c'est quand même une sacrée bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, qu'il y a un marché qui s'ouvre immédiatement dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein, il y a des business d'ailerons arrière de trottinette qui se montent à Tourcoing. Investissez, Jean-Yves Courciel est déjà sur le coup. L'action Jean Talu de trottinette a déjà pris 12 points à la bourse de Béthune. Parlons donc tuning, parlons custom avec une belle trottinette customisée en moto.
Un custom un peu avec des petites sacoches, avec des rivets qui donnent l'impression qu'effectivement ça ressemble peut-être à une moto de chez Harley, une moto américaine, nous dirons, plus simplement.
Mais là, c'est carrément une Harley Davidson trottinette.
Ah,
ben... Est-ce qu'on peut être biker et faire de la trottinette?
Ah, tout à fait.
Ben voilà. Pour ceux qui hésitent entre la Harley et la trottinette, n'hésitez plus. Il y a la Harley-tinette, on pourrait l'appeler, ou la trotte à Harley. On n'arrête pas le progrès, même si des fois, c'est quand même un peu dommage. Alors, il y a des réfractaires au progrès, évidemment. Il y a notamment un groupe de motards que j'ai croisé ce matin. Et j'ai repéré, parce qu'ils avaient tous le même t-shirt, on pouvait donc parler d'une bande organisée.
Bah, on a monté ce groupe-là entre nous, comme ça, sans passer par la préfecture ou je ne sais quoi. On s'en fout, quoi, en fin de compte.
Un groupe qui s'appelle comment?
La Team Bata.
Voilà, alors quand j'ai vu la Team Bata, je me suis dit, il y a un potentiel. Il y a un combat, il y a un discours, il y a une colère. Alors c'est pas la Team Mamine hein, que connaît bien Juliette Arnaud, puisque c'est comme ça qu'elle classe les personnes les plus mignonnes du monde. Hein. Ça va, je le rappelle, je parle sous votre contrôle de votre chien à Gérard Collomb au réveil. Ça, c'est la Team Mamine. Et là, c'est la Team Bâtard. Hein. Ça n'a rien à voir, donc j'ai parlé trottinette, mais pas que.
Bah, je pense que c'est notre avenir. Quand on voit les limitations de vitesse et tout ça, je pense que les trottinettes, oui, c'est notre avenir, ouais. Ça continue comme ça. Mais on va pas se laisser faire.
C'est vrai?
Ouais, je pense.
Vous allez mener une fronde contre la trottinette?
Plus qu'une fronde, parce que ça commence sérieusement à nous saouler. Hein, les gars?
Oh, les gars, ils ont pas l'air super motivés.
Moi, je me réveille, moi.
Oui, alors, la révolution de la trottinette, c'est pas pour tout de suite, parce que la Team Bâtard, elle est pas du matin. Ah, voilà. C'est vrai que la révolution, ça se fait pas le matin. Hein. On dit le grand soir, on dit pas le petit matin. Bon, en tout cas, la Team Bâtard est fâchée contre les atteintes à la liberté des motards et craint que tout le monde doive bientôt rouler en trottinette. Donc, tirons-en peut-être des conclusions sur l'état de la France.
Ce qui se passe en France en ce moment, c'est qu'on nous prive beaucoup de liberté. Alors qu'on est soi-disant, on dit toujours qu'on est un pays libre. Bah, j'étais en Belgique il y a pas longtemps à la Chimée et je m'aperçois que c'est certainement un pays plus libre que nous, quoi.
D'accord, la Belgique, gna, commence à nous courir sur la trottinette, là. Bon, je vous laisse évidemment vous faire une opinion par vous-même. Est-ce que vous êtes team bâtard ou team trottinette? Si l'Aquarius eût été une trottinette, eût-il été mieux accueilli? Moi, je ne prends pas position là-dessus. Je sais, c'est de la lâcheté, mais c'est une tradition française également.
Merci Guillaume Meurice. Bernard Alain, vous circulez en scooter?
En scooter. Ouais. J'ai une petite voiture et un scooter. Voilà. Je suis pas très écolo. Hein. Mais la voiture, ouais, elle reste souvent en garage.
Oui, parce qu'avant, vous ne saviez pas, mais maintenant, on peut plus ignorer que ça pollue, la voiture.
Ah, ça, on peut pas ignorer.
On n'ignorait plus.
C'est clair.
Non.
C'est vrai. Vous les croisez en scooter?
Les trottinettes,
vous devez les éviter ou
non, pas vraiment. Moi, je ne trouve pas très omniprésent sur les chaussées, en tout cas. Moi, j'ai peur pour eux, surtout.
Ouais.
Chaque fois, je me dis, s'il y en a qui se mangent une voiture, il est mort, quoi.
Déjà, il faudrait le port du casque.
Ils en font la nuit, en plus, sans éclairage. Ils croient qu'on les voit, mais comme les piétons qui traversent, on ne les voit pas. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir en faire un, parce que là...
Là, on a un témoignage fort.
Je savais que ce sujet était intéressant.
Il ne voulait pas. C'est arrivé, mais il ne voulait pas. Il l'a dit à la radio.
Bernard Alain avec nous, Juliette Constance aussi. On va parler de Banksy, qui a donc transformé une vente aux enchères en œuvre d'art. En happening mondial, l'autodestruction de son tableau, après qu'il a été adjugé 1 million d'euros, c'est du génie. Voilà, il l'a mis bien profond à tous les gros acheteurs, sauf qu'ensuite, l'œuvre a pris de la valeur.
Patrick, je t'en prie, c'est quoi ce truc, là?
C'est un sculpteur grec qui l'a fait. Takis Nahadin Shoh, j'ai vu quoi. En Californie, c'est de la folie, tout le monde se l'arrache.
Et ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con, celui-là. Tu sais combien je l'ai payé? Allez, 40 plaques. Boule. Et en plus, cash, parce que cet enculé, il se la joue, je suis un artiste, je prends pas l'échec. Et l'autre, il me demande à quoi ça sert. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.
C'est Gilbert Melki dans La vérité si je mens 2, le film de Thomas Gilou. C'est sans doute aussi à ces gens que Banksy a voulu faire un doigt d'honneur. Est-ce que ça vous a réjoui de voir ce happening de Banksy qui a donc probablement via une télécommande ou son téléphone actionné l'autodestruction de son œuvre alors qu'elle venait d'être adjugée?
J'ai appuyé sur le bouton. Ça m'a pas réjoui, je trouve que... L'art moderne, c'est vraiment un truc. Moi, j'ai des copains qui achètent des toiles, mais qui aiment des prix exorbitants. Je me dis, les pauvres, dans 10 ans, ça va être une catastrophe. J'y crois pas trop, moi, ces trucs-là.
Ah oui, Et je me dis, vous pensez que ça va être dévalué plus tard?
Ah, bah oui, moi, je pense qu'il va y avoir des gros problèmes.
Que les
Quand
bulles
vous
voyez
certaines
quoi.
Installations, par exemple, même à Beaubourg, un jour, je rentre dans une salle toute blanche, il y avait un cordage enroulé, un sac de ciment qui perdait un peu de ciment, et c'était tout dans la salle. On se dit, mais là, il y a un doute sur l'avenir de la chose. Quand même. Donc, moi, j'avoue que c'est surtout business. J'ai l'impression, non, j'ai pas...
Je voulais ramener Banksy à la pièce, parce que Banksy, on ne le connaît pas, on n'a pas son visage. Et par contre, son œuvre est importante.
Oui.
Et c'est vrai que lui-même, j'espère pour lui, qu'il doit être très fier de ce qu'il réalise et des questionnements qu'il propose au monde actuel. Le jeune écrivain dans la pièce, à la limite, il préférerait que son nom ne soit pas donné et qu'on ne consomme que son poème, son travail.
Vous avez dit consommer et poème dans la même phrase.
Ah, oui, oui.
C'est
pour
ne
pas être embarqué, dans justement là où voudrait l'emmener sa mère et mon personnage qui est quand même un peu complice de toutes les malversations qui ont été faites, les changements de dédicace. On dit que c'est de la femme alors qu'en fait c'était peut-être quelqu'un d'autre, tout ça. Il y a un moment où il implose, le garçon, et il se dit non, il a vraiment envie de créer une œuvre, mais il dit je ne veux pas profiter du nom de mon père, d'abord parce que c'est presque trop dangereux pour lui, parce que c'est trop écrasant, et ensuite donc il n'aura pas de liberté. Donc là il choisit la liberté à un certain moment de la pièce.
C'est dans La légende d'une vie, hein, de Stefan Zweig. Donc si peut-être que Banksy est le fils de quelqu'un,
et
de célèbre.
On est sûr que Banksy est un homme?
Non.
On est sûr
de
rien.
Hein, on n'a pas sûr.
Comme il
pas.
A des super idées et tout. Hein. Je
peux le taper, chef.
Oui, non, mais le génie, c'est surtout de ne jamais se montrer.
Ouais.
Évidemment, mais jusque quand est-ce
bah, le jour où il se montrera, à mon avis, ça sera un peu foutu. Ce qui maintient tout ça, c'est
y a
le mystère.
Le mystère joue beaucoup aussi. Ouais. Ils sont même peut-être plusieurs.
Oui, c'est ça. Même s'ils se montrent,
c'est peut-être une équipe.
Si c'est lui,
on ne sait pas. C'est peut-être. À mon avis, là, ils étaient une équipe pour réaliser tout ça.
C'est possible.
Oui, il y a peut-être eu aussi de la complicité à l'intérieur de chez Sotheby's.
Comment vous rentrez un tableau avec une épaisseur pour.
Non, c'était dans le cadre. Donc,
oui, mais il n'a jamais voulu qu'on regarde le cadre. Normalement, un tableau, ça se démonte dans les salles de vente. Là,
et là, il y a toutes les salles de vente du monde qui sont en train de démonter pour être bien sûr que ça ne se reproduise pas. Est-ce que vous avez déjà eu, vous, envie de dénoncer votre art ou de dénoncer des choses dans votre art, dans le théâtre, vous qui avez beaucoup joué?
Dénoncer, c'est un bien grand mot. Je trouve qu'on peut toujours, les gens qui vous disent oui, mais le grand public, ça n'existe pas. Ce que j'ai souvent voulu, pas dénoncer, mais souligner, c'est que quand on tire les gens vers le haut, le même public tiré vers le haut, il peut adorer, Et si on le tire vers le bas, il se marrera bien aussi. Mais si, à la base du désir, c'est peut-être quand même d'emmener les gens un petit peu vers le haut, plutôt que de dire, on va faire un truc bien populaire. Le populaire, c'est pas du tout vulgaire. Mm-hmm. Le vrai théâtre populaire, c'est un théâtre de qualité. Et c'est un petit peu ça qu'on mélange.
Et quand vous dites, il y a des gens à la sortie de la salle qui viennent me faire signer des photos de moi en hibernatus, c'est ça que vous avez réussi à faire aussi, grâce à un film très 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 populaire et qui fait partie des références.
Moi, je trouve que c'est un des mieux de Louis, hein, celui-là. Ouais. C'est un des plus, d'abord parce que c'est un film d'époque, il est joli à regarder.
Et si les gens sont curieux de venir vous voir sur les planches, vous,
Non, parce que c'est très bizarre, c'est des gens qui viennent vous attendre à la sortie, mais qui n'ont pas vu le spectacle.
Ah, d'accord. Ah ouais, c'est dommage.
Alors, le mieux, c'est quand même quand j'ai joué avec
eux. Si c'était le cas, ils seraient venus voir Stéphane Zweig.
Ce qui les intéresse, c'est l'acteur qu'ils ont vu au cinéma il y a 50 ans. Et j'ai fait une pièce de Pierre Note avec le chanteur Raphaël et Emma de Caunes. Et il y avait au La Bruyère. Et il y avait des mômes qui attendaient Raphaël. Et elle leur disait, ça vous a plu? Bon, on n'était pas au spectacle. Elle venait faire signer le programme, des trucs,
dommage.
Des photos. Mais elles n'avaient pas vu la pièce. Non, c'est deux mondes, ça.
Ouais,
la dose du...
Mais en ça, Banksy, justement, est populaire parce que justement, ce qu'il a fait là, les gens en parlent sans peut-être jamais rentrer dans
le C'est génial. Le coup est génial.
Bernard Allan avec nous jusqu'à 18h et parmi nous, Juliette Arnaud est là pour nous conseiller une belle lecture.
Oui, une lecture vibrante. Alors, c'est un livre qui s'appelle Piranha et qui est signé Roberto Saviano. C'est son premier roman de fiction totale à Saviano, qui de formation est journaliste. Donc, il a été formé pour observer et rendre compte du réel. Et là, avec Piranha, il nous offre le portrait de petits piranhas de fiction qui se rêvent gros requins de la délinquance. Alors, on connaît Roberto Saviano grâce à un livre, Gomorra, qui après a été un film, qui après a été une série. La troisième saison est dingue. Son réalisateur est une réalisatrice, Francesca Comencini. Gomorra, c'est d'abord une enquête sociologique sur Naples et ses environs, la banlieue de Cegondigliano, ou plus exactement, comment la Gomorra fonctionne là-bas. Réalité. Et Saviano fait si bien son enquête qu'il vit depuis sous protection policière, parce que la Camorra voudrait bien le transformer en moquette de volant. Réalité. Avec Matteo Salvini qui envisage de la faire sauter, cette protection. Réalité. Pendant que des baby gangs, c'est des gamins qui ont entre 9 et 13 ans, commencent à sévir à Naples, réalité. En se réclamant de leur idole, Ciro, dit l'immortel, personnage de fiction de Gomorra, fiction. Bref, ça s'imbrique, ça se répond, ça se mélange, une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Tout est installé pour que les gens commencent à dire des âneries. Et c'est ce qui se passe en ce moment à Naples. Il y a des gens qui crient haro sur Gomorra en accusant Saviano et les réalisateurs et producteurs de Gomorra de fabriquer, en gros, ces baby gangs. Hein. C'est exactement ce qui est arrivé à Oliver Stone avec Tueur Né à l'époque. C'est un peu comme si on accusait Guillaume Meurice de fabriquer des abrutis. Non. Guillaume, il se balade dans la rue avec un micro et son air de gentil n'a qu'un œil. Et les gens s'empressent de dire des choses abruties. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il dit, Saviano, lui? Il dit « Gomorra est tirée de la réalité, elle ne l'inspire pas. Ses enfants n'imitent pas Gomorra non plus, ils imitent la Camorra. » La vérité, c'est peut-être qu'une fois qu'un livre ou un film devient chose publique, le livre ou le film, il n'appartient plus vraiment à l'auteur. Pas plus qu'il n'appartient à l'auteur de dire « Voilà comment il faut comprendre mon film ou mon livre. Voilà les enseignements qu'il faut en tirer. » Moi, évidemment, quand je regarde Gomorra, je me réjouis de n'être ni Chirou l'immortel, ni Gennaro. Mais moi, voyez-vous, de plein de manières, je suis privilégiée. Et puis, je suis vieille. Merci bien. Les piranhas, donc ces petits gamins de fiction, sont des enfants. Et au lieu de bosser le brevet des collèges, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiguisent leurs dents de lait. Pourquoi des piranhas? Parce que les piranhas, ils sont dangereux parce qu'ils sont une multitude, parce qu'ils sont une nuée, comme les chauves-souris, qui ne sont pas Dracula, comme les moustiques-tigres, qui ne sont pas des tigres. En revanche, la férocité, le goût du sang, lui, il est bien là. Et puis les enfants, c'est une matière malléable pour les gros gangsters. Et dès qu'ils sont en situation physique de maîtriser un scooter, en avant trinquant. Ces gamins, ils ont à cœur de conquérir respect. Parce que si on vient du sud de l'Italie, le respect, ça se conquiert. Ils vivent dans les quartiers chauds. Ici, c'est Forcella. C'est pas une banlieue, comme Scampia ou Cegondigliano. C'est en plein dans le centre de Naples. Je cite l'auteur. Dans ces immeubles de Forcella, il y a plus d'armes que de fourchettes. Leur chef, Nicolas, 15 ans, il est troublant. Sa part de mysticisme est effrayante. Et ce qui est très effrayant, c'est qu'il a plutôt des bons parents. Il a plutôt même des bonnes capacités scolaires. Il y a son prof d'italien qui dit « Il sait capter les bruits du monde et trouver une langue pour les raconter. » Mais Nicolas est pris par des rêves sanglants. Et malgré ses 15 ans, il est même disposé à changer la seule règle de la pieuvre, de la Camorra, le respect du sang, c'est-à-dire celui de la famille, que tu ne choisis pas. Saviano se glisse alors dans la tête ombreuse de Nicolas et il trouve sa langue. Il dit « Si pour devenir ce qu'il voulait devenir, Nicolas devait aimer celui qui lui avait appris la haine, eh bien il le ferait, que le sang aille se faire foutre, Camorra 2.0. » Le titre original de Piranha, c'est La Paranza dei Bambini. La Paranza, c'est le groupe, la bande, c'est un terme camoriste, et donc la bande des enfants. À la fin de ce premier tome, parce qu'en fait c'est un diptyque, Saviano écrit « Maintenant, c'est leur tour d'aller pêcher ». Et il annonce ainsi le deuxième tome. Croyez-moi, en fermant le premier, vous attendrez le deuxième. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, c'est publié chez
Gallimard.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Juliette. On poursuit avec Bernard Allan et la fiction française qui met en scène des héros régionaux. Il y a Capitaine Marlowe, c'est dans le Nord. Meurtre à Guérande, par exemple, en Bretagne. Ou Le Tueur du Lac à Annecy. Et la BIM, France 3, Fred Tremblay Netflix, à condition que les acteurs qui vivent essentiellement à Paris se sentent à l'aise avec cette idée, hein, d'aller en région, bien sûr.
Ça va pas le faire. Honnêtement, je tiendrai pas, je me connais.
Pense à ta carrière, quand même. T'as passé 15 ans ici, tu vas pas finir là-dessus. Ça va revenir l'envie.
Attends, tu vois bien que c'est Groland, ici. Attends, y a rien à foutre, y a que des ploucs.
Quand il dit plouc, c'est au bon sens du terme. Ah, je le connais bien.
C'est Mehdi Sadoun et Chantal Lobby dans La Dream Team, le film de Thomas Sorio. Bernard Allan, vous êtes le commissaire Magellan?
Non, je jouais le procureur.
Ah, vous jouez le procureur,
le
vous d'accord.
Le copain du commissaire Magellan.
Très bien.
On tournait ça à Lille.
Oui, voilà,
c'est ce que je voulais. Si vous avez vu le générique de Magellan, on se croirait en Toscane. C'est extraordinaire, c'est filmé avec talent.
Je ne vous cache pas que je ne l'ai pas vu, hein, sinon je n'aurais pas commis cette erreur.
On va moi non plus.
Mais vous tournez donc à Lille.
Non, j'ai fait 23, j'ai arrêté.
Oui, d'accord.
Oui, c'est à Lille, oui, ouais, tourne ça à Lille. Oui.
Et donc,
fait des vaccins, enfin, comment ça s'est passé?
Ah bah, sûrement.
Ouais, bah,
mais donc, cette idée d'inscrire les héros dans la région, ça marche très très bien.
Très bien.
Ça permet à toutes ces fictions d'être beaucoup vues.
J'ai participé à un truc aussi, qui doit être chaud. C'est Meurtre à Bride-les-Bains, quand même, faut le faire.
Ouais.
Avec Catalifo et Lynn Renault.
Mais c'est ça qui permet aussi d'être une contre-proposition aux séries américaines. C'est d'aller bien en dehors de Paris et de s'inscrire dans un territoire.
Ils profitent des paysages. Et en fait, le décor en soi devient un truc, quoi, un personnage.
Un acteur
en
même.
Plus.
Et ça permet de donner un nouveau souffle à la fiction télé, même si les 5 dernières minutes, Maigret ou l'Instit, on se rappelle que c'était très ancré.
Vous avez vu tout ce qui se passe avec tout ce qui se passe à 7, là, tout ce qui se passe, il y en a plein. Là. Mm-hmm. Candice Renoir, il y a tout. Ça marche très bien, les trucs. Les gens adorent, en fait.
Mais est-ce que les régions, après, se tirent pas la bourre pour subventionner
Il doit y avoir des problèmes de subvention, évidemment. Mm-hmm. Oui,
mais il y a aussi une chose qui a à voir avec la lumière, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de faire des extérieurs quand on tourne à Montpellier, à Sète ou à Marseille, en jour de soleil, c'est pour un chef-op,
oui,
c'est quand même
facile.
Mais à Lille.
Non, alors Lille, évidemment, ça ne marche pas.
Mais Lille, ça marche. Vous photographiez autre chose, quoi. On peut aussi photographier la pluie, le grill.
Les Maigrets, c'était bien.
Bah là, c'était pas tant.
Évidemment.
Un petit canal bien glauquasse.
Et vous, quand vous recevez la fiche de tournage et quand vous dites que vous allez tourner en région, ça vous fait marrer ou vous vous dites, c'est l'aventure?
Moi, je vais vous dire pourquoi j'aime bien. Moi. Parce qu'en fait, on est un peu coupé du monde.
Oui, c'est ça.
On n'a pas à faire des trucs comme on ferait peut-être le soir en rentrant à Paris. Du coup, c'est un peu une parenthèse. Oui. Hop, on sait qu'on en a pour tant de jours, on y va et puis on rentre.
Et on reste dans l'univers
de son découvre une ville aussi.
Je déteste pas du tout.
Bernard Allan, qui viendra vous voir avec la pièce de Stéphane. Fans Veg, hein, la légende d'une vie partout en France, bientôt, en ce moment au Théâtre du Montparnasse. Et on voudrait vous faire jouer dans un petit sketch avec nous, si vous êtes
mais
d'accord.
Oui,
bien sûr, en fin d'émission, proposer un rôle à l'invité. Et attention, pas n'importe
le
qui.
Sketch, pour le sketch.
Donald
que
Trump, évidemment.
Ah, oui,
c'est
pas
mon responsabilité. Il faut interpréter parfois des gens qu'on aime
alors,
pas.
Pourquoi Donald Trump?
Mélania Trump est allée visiter le Kenya, elle a mis un petit chapeau colonial. Mélania Trump est allée visiter l'Égypte, elle est habillée en Indiana Jones. Donc on s'est dit, peut-être qu'il y a un styliste, en fait, à la Maison Blanche. Qui s'organise un petit peu pour faire en fonction. Styliste diplomatique. Ce styliste, c'est Guillaume Meurice. Vous êtes Mélania Trump, Charlene Denonacker.
Oh.
Et Donald Trump, c'est Bernard Allan.
Bonjour, monsieur Trump.
Bonjour, mon bon.
Bonjour, madame Trump. Madame Trump ? Mélania ?
Oui, pardon, j'essaie d'oublier que je suis Madame Trump.
Quel humour de poussi.
Bon, Mélania, faisons le point sur vos tenues pour vos prochains rendez-vous.
Alors, la semaine prochaine, je me rends au Vatican.
Génial, je crois qu'il me reste une tenue de nonne.
Une tenue de nonne?
Oui, c'était la tenue d'une soirée, enfin c'est compliqué. Enfin, c'était à Stormy Daniels.
Oui, c'est ça, de toute façon, je n'en veux pas parce que je ne veux pas m'habiller en noir. Vous avez une tenue blanche plutôt.
Ah oui, on doit bien avoir une soutane blanche à votre taille, Mélania.
Très bien, il faut commander aussi la calotte blanche qui va avec.
Est-ce qu'on peut avoir une papa mobile aussi, ça fera plus local?
Très bien, je note. Ensuite, vous vous déplacez où?
Je me rends en Écosse.
Ah, il faudrait trouver une marinière et un béret.
Non, Mr. President, ça c'est la France. Ah. L'Écosse, c'est plutôt le kilt.
Ah bon, c'est pas le même pays ?
Non, Donald, je t'expliquerai.
Mais c'est super, t'as emporté un la semaine dernière pour la soirée Bunga Bunga chez Silvio.
Mais Donald, je n'ai jamais fait de soirée Bunga Bunga.
Oh shit, j'ai dû me tromper.
Ouais. Voilà,
et sinon, votre déplacement d'après, ça c'est
à la fin du mois, je pars rencontrer Angela Merkel en Allemagne.
Il faudra une chemise brune. Et des bottes en cuir ?
Non, même vous, non, vous ne pouvez pas. Vous ne voulez pas plutôt une tenue bavaroise ?
Oh oui, chérie, t'étais trop belle dans cette petite tenue bavaroise lors de la soirée Playboy.
Mais non, Donald, je n'étais pas à la soirée Playboy.
Oh shit, c'est quoi ce costume au fond là-bas ?
Non, non, celui-ci, je pense que vous ne pouvez pas.
Ah, elle est très jolie, cette longue tunique blanche.
Non, non, vraiment, non, non, vous ne pouvez pas.
Non, mais non, elle non. est jolie, cette capuche avec ce bout pointu oui. là. C'est astucieux, ces deux trous dans
ouais,
les yeux.
Oui, c'est astucieux, mais c'est quand même compliqué.
Je vois qu'on a trouvé ta tenue pour notre petit week-end à Charlottesville.
Mais non, mais là, c'est quand même très compliqué.
C'est très bien. Sinon, moi, j'irai tout nu.
Tout nu ? Ça s'appelle la soirée Golden Shower la semaine dernière.
Mais non, j'ai pas fait soirée Golden Shower la semaine dernière.
Ah, shit. T'es trompé.
Déjà, moi, maman est une femme. Bon. C'est assez lamentable.
Non, c'était génial. Vous avez tellement une voix qu'on a entendue.
Ben oui.
Même enrhumée.
Mais non, c'est formidable.
Cette voix mythique de Bernard Allan qu'on peut entendre et on peut vous voir donc dans La légende d'une vie de Stefan Zweig, adaptée par Michael Stamp, mis en scène par Christophe Lidon, avec Nathalie Dessay, Macha Merrill, Gaël Giraudot et Valentine Gallet au théâtre du Montparnasse, du mardi au samedi 20h30, samedi 17h, dimanche à 15h30 et bientôt dans toute la France.
C'est complet, c'est complet. Hein.
Oh, oui. Bernard Allan, merci beaucoup.
Oh, merci à vous, j'ai passé un bon moment.
Et bien
nous aussi. On vous laisse le mot de la fin.
Bah déjà, moi, maman est une femme. Tu vois. Soit clair.